Ben, j'ai reçu ton ordinateur.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Puce à l'oreille. En 15 minutes chrono, l'informatique et ses concepts nébuleux sont rendus simples, concrets, pratiques, accessibles. Sur un temps ludique, on explore les différentes possibilités offertes par le numérique et surtout, on les dépasse pour imaginer un horizon virtuel plus désirable. Fini les heures à s'abîmer les yeux devant des lignes de code incompréhensibles. Fini la super idée qui ne verra jamais le jour faute de compétences en programmation. Fini les budgets faramineux dépensés dans l'élaboration d'une solution informatique. On aurait tendance à le penser, car aujourd'hui, le no-code est arrivé. Tel le pro-chevalier venant délivrer la princesse, le no-code délivre le quidam du terrible dragon de la programmation et de l'apprentissage informatique. Enfin, ça, c'est ce que l'on pourrait croire si l'on s'arrêtait à la lisière du sujet. Alors, pour éviter cet écueil et bien comprendre en quoi consiste toute cette histoire de no-code, nous avons rencontré Jérémy Fourcret, le cofondateur et CEO de The Toolbox, une entreprise qui développe et implémente des solutions digitales no-code sur mesure. Alors, le no-code, Eldorado du do-it-yourself, solution miracle pour lancer son projet sans savoir coder? On en parle dans ce nouvel épisode de La Puce à l'oreille. Bonne écoute! Commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est que le no-code? Eh bien, la réponse va peut-être vous sembler un peu étrange, voire même carrément absurde, mais en réalité, le no-code, eh bien, c'est du code. Ou plutôt du code qui ne dit pas son nom. Cette gamme d'outils rassemblés sous l'appellation no-code a pour ambition de rendre la création informatique accessible à des profils dits non-techniques. En d'autres termes, de programmer sans programmer. Et vous avez peut-être même déjà utilisé ce genre d'outils. WordPress ou Excel, par exemple, sont des logiciels avec lesquels il est déjà possible de no-coder. Alors pourquoi le no-code fait-il aujourd'hui grand bruit, Jérémy Fourcret?
Ce qui caractérise peut-être la révolution de no-code qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'en fait, avec l'essor du cloud, donc le fait que les applications soient stockées en ligne, et donc du modèle SaaS, en fait, Software as a Service, qui permet de prendre des abonnements à des outils et de les utiliser en ligne, là où avant on les achetait, et l'essor aussi des API, c'est-à-dire le fait que les outils puissent se parler entre eux. En fait, on rentre dans une nouvelle ère où tous les outils sont à la fois hébergés en ligne et à la fois connectables les uns avec les autres. Et donc, en fait, finalement, c'est ça la révolution et l'approche no-code dont on parle aujourd'hui. C'est le fait que une grande partie des outils modernes de l'écosystème puissent se connecter entre eux pour créer des solutions qui sont plus larges en fait que la solution originale de façon automatisée et sans devoir écrire de code, ce qui était évidemment pas possible avant.
Les possibilités offertes par le no-code sont donc très nombreuses. D'aucuns diraient même illimitées. Mais on verra tout à l'heure qu'il existe tout de même quelques contraintes à ce vaste champ des possibles. Pour l'heure, essayons d'imaginer. À quoi ça sert le no-code, Jérémy Fourcret?
On peut séparer aujourd'hui les usages du no-code en trois grandes catégories. On va avoir un usage de prototypage, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir développer sans avoir de cofondateur technique une nouvelle idée, un nouveau projet grâce à des technologies no-code. Donc ça peut être une marketplace, ça peut être un nouveau service, ça peut être une idée de technologie. Donc on va pouvoir tester en fait rapidement une idée avec du no-code. Ça, c'est un premier usage. Il y a un deuxième usage qui va plutôt s'appliquer au développement commercial, donc en fait au sales, au marketing, qui va permettre de connecter entre elles différentes solutions pour créer ce qu'on appelle des sales machines ou des marketing machines, donc en fait qui sont des outils très automatisés qui vont permettre de créer des séquences d'emails, par exemple, ou des outils automatisés qui vont se brancher à des CRM et qui vont permettre en fait d'attaquer à l'échelle très, très gros volume de prospects pour faire grandir très rapidement une boîte. Donc ça, c'est un peu le deuxième cas d'usage. Et le troisième cas d'usage, celui sur lequel moi, je me passionne et on est très expert chez The Toolbox, c'est ce qu'on va appeler des no-code ops, en fait. Donc, les opérations internes de l'entreprise, pouvoir créer des outils internes sur mesure, en fait. Et donc, de pouvoir ne plus être obligé forcément d'utiliser des grosses solutions ERP ou CRM très, très lourdes ou de gestion de projet très, très lourdes, mais de pouvoir construire des outils qui sont parfaitement adaptés aux besoins de l'entreprise et tout ça de façon rapide, sécurisé et pour des budgets qui sont bien inférieurs à ce qui était possible avant. Et pour moi, ça, c'est l'usage en tout cas que je préfère.
Ok. Je vous le concède, ces applications ont quelque chose de très business. Mais sachez qu'en réalité, les applications no-code sont aussi à destination des particuliers. La domotique, par exemple, ces objets connectés dédiés à l'univers de la maison. Eh bien, toutes ces applications peuvent tout à fait être développées via des outils no-code. N'importe qui peut donc se les approprier. C'est ce qui fait du no-code une révolution de l'accessibilité. Comme nous l'explique Jérémy Fourcré.
Aujourd'hui, il y a moins d'1% de la population qui sait coder. C'est pas un chiffre, je pense, qui est amené à grandir énormément. En réalité, il est assez peu probable que dans 20 ans, 30% de la population sache coder et que ça devienne le centre des programmes d'éducation. Coder, c'est la technique, c'est bien, mais je pense que ce qui est important, c'est de permettre de créer des outils fonctionnels à des personnes non techniques.
Dans cette optique, le no-code s'inscrit dans un mouvement qui est cher au monde de l'informatique. C'est celui des makers, allez, on va dire faiseurs en français. Cette culture, tournée vers la technologie et la création en groupe, s'intéresse notamment à l'électronique, la robotique ou encore l'impression 3D. Un de ses slogans, eh bien, ça pourrait être le fameux « do it yourself ». Mais si le no-code est plus accessible que la programmation et semble donner à n'importe qui l'opportunité de participer à la grand-messe du numérique, Jérémy Fourcré nuance quelque peu le propos.
Il y a des gens de tout niveau qui peuvent se mettre au no-code et très rapidement acquérir pas mal d'expertise, en fait, parce qu'ils ont du talent et qu'ils ont en fait des expériences qui leur permettent d'être bons sur ces sujets-là. Donc notamment, quelqu'un qui a fait du product management, par exemple, dans la tech et qui va se mettre au no-code, il est possible que très rapidement, en fait, il acquiert beaucoup de compétences et qu'il devienne très bon. De la même manière, des personnes qui sont très fortes sur Excel, par exemple, pourraient très rapidement se mettre à faire du no-code de grande qualité. En revanche, pour avoir donné des formations à des publics assez larges, c'est assez amusant de voir que sur un échantillon, par exemple, de 20 personnes qui vont suivre le même cours pendant 3 heures d'initiation à Airtable, au bout de 3 heures, il y en a qui ont tout compris et qui commencent à faire des trucs pas mal, et il y en a qui n'ont toujours pas compris comment est-ce qu'on faisait des relations entre des bases de données. Et en fait, on n'est pas tous, je pense, égaux devant cette capacité logique qui est très importante dans le no-code, et aussi un peu cet esprit logique mathématique qu'il faut pour construire des produits. Et après, encore un autre élément, c'est la sensibilité à l'utilisateur, donc plutôt la partie UX, qui est aussi une composante importante et qui n'est pas non plus donnée à tout le monde. Il y a des gens, en fait, qui ont du mal à réfléchir à la place de quelqu'un d'autre, à se mettre à la place d'un utilisateur, à essayer de comprendre le besoin, qui vont construire un produit et dire « Ah bah regarde, ça marche !» Et en fait, l'expérience, elle n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'un utilisateur peut attendre.
Vous l'aurez compris, nos codes ne signifient pas nos compétences. Il est même nécessaire de se former à ces nouveaux outils pour les utiliser au mieux.
Il faut bien faire la distinction entre pouvoir se former et développer des compétences no-code, ce que je pense tout le monde peut faire, qui est accessible à tout le monde, et en faire un métier et construire vraiment sa vie autour du no-code et construire des beaux produits au service de clients en no-code. Et ça, c'est quand même complètement autre chose. En revanche, par rapport au code, ça ouvre quand même le développement à un public beaucoup plus large.
S'essayer à l'utilisation d'outils no-code, c'est entrer dans un vaste champ de possibilités, vous l'aurez compris, mais c'est aussi rencontrer une communauté, comme l'explique Jérémy Fourcré.
L'approche communautaire, elle est indispensable pour devenir un bon développeur no-code ou même en fait réussir à construire son projet. Il faut absolument poser des questions et faire tester en permanence.
Et oui, car développer un bon projet no-code, c'est utiliser une méthode qu'on appelle itérative. Allez, en quoi consiste-t-elle ? Eh bien, il suffit de faire des erreurs, de les corriger, d'en faire de nouvelles, de les corriger encore, bref, vous avez compris le principe. C'est l'une des forces de ces nouveaux outils no-code, c'est leur flexibilité. Développer un projet no-code peut dès lors se suffire à lui-même ou bien donner envie d'aller plus loin.
Peut-être qu'à un moment, ce projet marchera tellement bien que tu vas rencontrer des limites et tu vas te dire, ça y est, là, c'est le moment de créer une vraie technologie et de se lancer dans quelque chose de plus complet en code en recrutant une équipe de développeurs. Ou peut-être que le no-code suffira à ce moment-là et que tu vas pouvoir continuer avec ça.
Les limites, tiens, parlons-en puisque Jérémy nous en parle. Il y en a quand même quelques-unes, évidemment. Ça paraissait un peu trop beau, non, vous trouvez pas ? Alors, les limites, quelles sont-elles ? Eh bien, on va les retrouver dans le stockage, par exemple, des données, le volume, évidemment, des données que l'outil est capable de traiter, ou encore la personnalisation de l'interface utilisateur et du design, dont les possibilités sont parfois un peu limitées, justement. Mais pour Jérémy Fourcray, il existe une autre limite à laquelle on ne pense pas toujours au premier abord.
On va avoir une limite qui, pour moi, en fait, est la plus grosse limite, et c'est une limite de propriété intellectuelle. C'est-à-dire que si demain, vous développez une startup avec une composante tech, une startup innovante où c'est votre produit qui a de la valeur, évidemment, vous développez une technologie qu'il va falloir créer avec du code parce que vous voulez la propriété intellectuelle et avoir votre propre produit. À là où, dans du no-code, vous travaillez sur des outils qui, quand même, ne sont pas des technologies que vous avez développées vous-même et qui vont donc donner énormément d'avantages au niveau du temps de développement, du risque ou de l'absence de risque, en l'occurrence, et du prix. En revanche, ce n'est pas vos technologies. Donc là-dessus, il faut être bien conscient.
C'est ce fameux concept de code source dont nous avons déjà parlé avec Gérard Berry. Souvenez-vous, c'était dans l'épisode 2 de La puce à l'oreille. Le code source, c'est ce qui fait toute la valeur d'un logiciel, donc souvent celui d'un produit tech. Enfin, une bonne nouvelle pour les développeurs, à qui l'on avait déjà prédit la disparition de leur métier. Eux le savent sans doute mieux que quiconque, mais rassurons tout le monde, ce métier de développeur et développeuse est extrêmement recherché et très loin de disparaître. En revanche, ce métier se transformera peut-être en se concentrant davantage sur des technologies de pointe que le développement de sites dits « basiques ». D'autant qu'avec les évolutions prochaines du web, il semblerait qu'il y ait beaucoup à faire, comme l'explique Jérémy Fourcray.
En fait, le no-code, c'est un peu c'est l'arrière-garde de la technologie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a suffisamment codé, on finit par no-coder, en fait. À force d'avoir fait quelque chose plein de fois, on finit par développer une interface qui le fait à notre place. On ne peut pas développer du no-code pour quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, les nouvelles technologies de blockchain et de no-code, de blockchain ou de Web3, elles vont faire leur propre vie par elles-mêmes et se développer pour l'instant avec. Il y a très peu de développeurs qui travaillent sur ces solutions-là, même si on en entend beaucoup parler. Mais petit à petit, évidemment, il va aussi y avoir une approche no-code. Et je pense que l'approche no-code appliquée aux NFT et aux smart contracts, ça va être assez gigantesque. Ouais. Mais je pense aussi que ce n'est pas pour tout de suite.
Parmi vous se cache peut-être déjà le futur milliardaire qui trouvera le moyen de rendre no-codable la création de smart contracts sur la blockchain Ethereum, par exemple. Qui sait ? Enfin, nous, on dit ça, on ne dit rien. On vous met juste la puce à l'oreille. Si vous avez envie d'approfondir vos connaissances sur le no-code, la puce vous invite à vous balader sur des forums type MakerPad ou NoCodeMaker, qui sont de véritables mines d'informations sur le sujet. Et s'il vous prend l'envie de mettre les mains dans le cambouis, les outils sont légion. Allez, à l'action ! Je suis Sophie Comte, cofondatrice de Chute Magazine et de Chute Radio, et je suis ravie d'avoir prêté ma voix à Swarma. Ce podcast a été écrit par la journaliste Nolwenn Mogwenn. Nous remercions également notre sponsor, l'assureur AXA. Pour écouter les prochains épisodes, tapez la puce à l'oreille dans votre plateforme d'écoute et même Chute Radio pour découvrir toutes nos émissions. À bientôt !